Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment très variés. J'ai tout autant eu des personnes qui ont parlé de nutrition, d'aéronautique, d'entrepreneuriat, on a parlé aussi de développement personnel, de start-up dans le monde de la tech, de financement, de reprise d'entreprise, de design. Et j'essaie de publier un nouvel épisode une fois par semaine. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les notes du podcast, les livres à lire, les références ou citations sur le blog du podcast en lien dans le descriptif de l'épisode. Pensez d'ailleurs, petit aparté, à vous abonner au podcast sur SoundCloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Je voulais juste prendre quelques instants pour vous dire que j'ai reçu ces derniers temps énormément de messages positifs, que ce soit sur les avis iTunes ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Instagram, notamment avec le handle Pelinau, donc P-L-A-I-G-N-E-A-U. Et je voulais juste prendre ces quelques instants pour vous remercier parce que c'est hyper, hyper utile pour moi pour faire connaître le podcast. Et vous avez été très, très nombreux ces derniers temps à laisser un avis ou même à partager sur vos réseaux. Franchement, je sais que c'est pas facile et que ça prend du temps et que vous avez autre chose à faire. Donc vraiment, un grand et sincère merci, merci. Ça veut peut-être dire que le podcast vous plaît, que ce travail vous plaît, et pour moi, c'est du coup une très belle réussite. Mais je voulais passer à mon invité du jour. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Lucille Woodward. Et vous pouvez lui dire bonjour aussi sur son compte Instagram, Lucille Woodward, L-U-C-I-L-E, Woodward, W-O-O-D-W-O-A-R-D. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Lucille, c'est vraiment un ovni dans le monde du coaching sportif. C'est une ancienne journaliste scientifique, coach sportive depuis environ 10 ans. Elle a été formée à la méthode Gasquet, formée aussi en micronutrition. Elle est auteure de plusieurs best-sellers, ancienne chroniqueuse dans l'émission Les Maternelles sur France 5. Et Lucille a également créé une web-série pour suivre des coachés pendant un an et développe aujourd'hui des programmes de rééquilibrage alimentaire et de remise en forme sur son site www.lucillewoodward.com, qui n'est rien de moins que l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros, mais elle est humble, donc elle ne le dira jamais, blog de fitness en France. Et peut-être que ceux qui me suivent le savent ou l'ont compris, mais j'adore tout ce qui concerne le sport et la nutrition, le bien-être en gros. Parce que même si le podcast, l'objectif c'est de parler de réussite professionnelle, je suis assez convaincue qu'il est crucial de ne pas négliger sa vie personnelle. Prendre des vacances, couper, se sentir bien dans son corps, dans sa tête, être en forme physiquement, avoir une vie amoureuse aussi, familiale ou amicale épanouie, c'est absolument clé. Et c'est clair que créer une start-up, être financièrement indépendant, avoir du succès, être connu, peu importe quel que soit votre objectif, c'est top. Mais si on n'a personne avec qui partager tout ça, si on n'a pas la santé, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Et j'imagine que vous en êtes convaincus. Donc c'est pour ça que je voulais, dans cet épisode, parler un peu plus de forme et de santé. Et j'ai donc choisi d'inviter Lucille parce qu'elle a une vision du corps, de l'alimentation et du sport qui est hyper positive, je trouve, et no bullshit. Lucille assume complètement ce qu'elle pense. Et même si c'est parfois à contre-courant, son état d'esprit, c'est vraiment « je suis pas la coach des stars, je suis la coach des vrais gens ». Elle a deux enfants, elle galère comme tout le monde dans son quotidien, elle a pas sa langue dans sa poche en ce qui concerne le lobby du monde de l'alimentation, et elle prouve, je pense, qu'on peut mener une vie saine tout en restant ultra actif. Pour les mecs qui nous écoutent, je vous rassure tout de suite, non, cet épisode n'a rien à voir avec un épisode juste pour les femmes, loin s'en faut. On a tout autant parlé de son parcours de combattant pour devenir coach. D'ailleurs, pour ceux que ça peut intéresser, il y a pas mal de petits tips. Des erreurs les plus fréquentes au niveau alimentaire qu'elle voit autour d'elle, de renforcement musculaire, de la routine sportive qu'elle vous conseille pour optimiser votre entraînement physique, de détox digital aussi, de méditation ou encore des dessous de l'industrie agroalimentaire. Bref, on est parti un peu dans tous les sens et j'ai pour ma part passé un super bon moment avec Lucille, donc merci beaucoup Lucille. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Lucille Woodward. Salut Lucille.
Bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir.
De rien, bienvenue dans mes mini bureaux.
Bienvenue sur le podcast. J'ai trouvé ton parcours super inspirant, super intéressant et donc j'étais ravie de te rencontrer. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur une phrase en particulier que j'ai beaucoup aimée. Et donc j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais je voulais commencer par te la lire et que tu me dises un peu qu'est-ce que ça signifie pour toi. Donc la phrase la voici. Tu disais, je suis spécialisée dans le corps des femmes et dans la nutrition normale avec de vrais aliments normaux qui sortent de la terre et qui n'ont pas été fabriqués par des industriels. Au final, alors que je suis la personne la plus normale, j'ai l'impression d'être une rebelle parce que je suis la seule à ne pas prôner la protéine et le sport ultra muscu. Tu ne te rappelles peut-être pas ça, mais en fait, je trouvais
ça... Si, mais c'est exactement vrai.
Bon, bah,
j'étais inspirée en disant ça un jour.
Et en gros, moi, il y a une idée derrière ça que j'ai trouvé super intéressante et qui me plaît aussi bien. C'est cette idée un peu de normalité versus la suroptimisation qu'on trouve dans le milieu du sport, bien évidemment, et que tu vis au quotidien, mais pas que. Enfin, tu vois, moi, je travaille dans le monde des startups et clairement, on le vit aussi dans ce milieu-là, dans l'amour, avec toutes les applications, etc., on le vit. Du coup, je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu avais voulu dire par ça et puis qu'est-ce qui fait que, justement, toi, tu n'es pas tombée dans la suroptimisation.
Qu'est-ce que j'ai voulu dire par ça? Que en fait, pour être bien dans la vie, il faut essayer d'être le plus normal possible. Parce qu'en fait, au final, on est des animaux. L'être humain est un animal comme un autre, alors avec une intelligence supplémentaire. Et qu'en fait, pour être le plus proche du bien-être optimal pour l'être humain, il faut revenir à la normalité de ce qu'on est, c'est-à-dire manger des choses normales comme un peu les animaux, donc les plus naturelles possibles, bouger, faire du sport mais sans aller trop loin en fait. C'est marrant parce qu'en fait tous les animaux sur la Terre ont leur propre autorégulation et nous aussi on est fait pour avoir une autorégulation. D'ailleurs les enfants le font très bien. Moi, je suis très inspirée de mes enfants parce qu'en fait, ils m'apprennent beaucoup. Ils ont faim, ils ont plus faim.
Ouais.
Ils sont crevés parfois, ils sont surexcités parfois. Et en fait, ils sont vraiment dans cet rapport très instinctif finalement à leur énergie. Et qu'on oublie vraiment au fur et à mesure de notre éducation, de notre socialisation. Et en fait, pour être bien, il faut retourner vraiment vers ça, vers l'instinct et vers le côté très normal et très naturel de la vie. Et c'est vrai que en parlant de ça dans ce milieu très prolifique, enfin voilà, qui fait beaucoup d'argent de la forme, que ce soit autant dans les vêtements de sport que dans les compléments alimentaires, etc. C'est pas très courant de le dire.
Non, mais c'est ça.
Parce que, après, on peut en parler, mais enfin, moi, je sais exactement pourquoi c'est pas très courant de le dire. Mais voilà, je suis un peu une rebelle en le disant, alors qu'en fait, c'est exactement ce qu'il faut dire.
Bon, alors, je vais être obligée de te demander si ça te dérange pas, pourquoi c'est pas courant de le dire. Et puis, je veux bien que tu me dises aussi, j'ai l'impression, d'après ce que tu me dis, que finalement, notre cerveau, en fait, nous fait faire des choses qui sont pas bonnes pour notre corps et pour notre mental, peut-être, j'en sais rien. Comment est-ce que, tu dis que ça vient un peu de tes enfants, mais aussi, comment est-ce que tu t'es rendu compte de ça et d'où ça te vient?
Alors, la première question, tu pourras la couper ou la remettre à un autre moment. Mais c'est pourquoi est-ce que c'est pas courant de dire qu'il faut pas manger comme ci, comme ça ou faire trop de sport? En fait, moi, j'ai constaté ça vraiment de la même façon que j'ai constaté quand j'étais journaliste médicale au tout début de ma carrière. Donc, en fait, moi, j'ai fait des études de biologie et ensuite de journalisme scientifique. J'ai commencé ma carrière comme journaliste médicale. J'avais 22 ans, 23 ans. J'ai commencé à couvrir les congrès médicaux internationaux pour l'information médicale pour les médecins. J'ai fait ça et j'étais jeune diplômée, je kiffais mon métier, le journalisme, la science, la médecine, sauver le monde. Vraiment, j'étais pleine de belles envies et de belles idées. Et donc, je me retrouve là-bas et pendant 3-4 ans, je n'ai couvert que des informations pour les labos pharmaceutiques. Et en fait, très vite, tu te rends compte que le journalisme médical, ça n'est que de la couverture de médicaments pour les labos. Tu n'es que à la botte de l'industrie pharmaceutique. J'ai pas honte de le dire, hein, c'est clairement ça. Et donc du coup, j'ai passé mon diplôme de coach sportif après, parce que, enfin voilà, c'était une passion, je voulais absolument le faire. Et ensuite, j'ai voulu mélanger ce côté journaliste et coach sportif, et je me suis retrouvée exactement dans le même truc en fait. C'est-à-dire que le monde de l'information, de la communication autour du sport et de la remise en forme est exactement pareil que l'industrie pharmaceutique ou que l'information médicale, à la botte des compléments alimentaires, de l'industrie de la protéine ou des équipementiers sportifs ou du matériel. C'est exactement la même chose en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout comme pour informer les médecins, il faut beaucoup d'argent parce qu'il faut envoyer les journalistes à l'autre bout du monde pour couvrir les congrès médicaux internationaux. Il faut beaucoup d'argent, ça coûte cher. Les médecins, par exemple, eux, ils veulent pas payer des journaux d'information, ça les saoule. Donc, ils veulent que ce soit gratuit. Quand c'est gratuit, forcément, il y a de la pub. Et du coup, voilà, c'est du public communiqué. Et c'est exactement pareil dans le sport ou la remise en forme. Ça coûte cher de créer de l'information, ça coûte cher de créer du contenu. Ouais, moi, je ne fais que créer du contenu, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Ça coûte très cher. Et pour avoir du financement, qui est-ce qui te le donne ? Eh ben, c'est l'industrie de la protéine, l'industrie des compléments alimentaires, l'industrie les équipementiers sportifs, et tous ceux qui vendent aussi du matériel, accessoires, etc. Donc, en fait, c'est exactement la même chose.
Je comprends.
C'est pour créer de l'information et du contenu. T'as besoin d'argent. Qui est-ce qui te fournit l'argent? Là où il y en a.
Ouais, bien sûr.
Donc, en gros, c'est pour ça que tout le monde parle de la protéine, du complément alimentaire, qu'il faut faire du sport comme ci, comme ça, toujours pour acheter ou en vouloir plus. Parce qu'en fait, ils sont financés par ce genre d'industrie. Ça, c'est la raison pour laquelle ça changera pas.
Ouais. Écoute, on espère qu'avec ton aide, y a une autre voie quand même. Mais du coup, si on revient sur la deuxième question où je te demandais un peu comment t'es tombée un peu justement dans cette voie de l'anti-suroptimisation, j'imagine que c'est en vivant ta carrière de journaliste, comme tu l'écrivais à l'instant, et puis maintenant aussi via ton blog, YouTube, ouais, etc.
En fait, je pense que c'est aussi venu parce que moi, j'ai commencé dans le métier du coach sportif très tard. J'ai passé mon diplôme de coach sportif, j'avais 25 ans, 26 ans. Donc déjà, j'étais vraiment la vieille dans la formation. La plupart de mes collègues de formation avaient 18 ans, 19 ans, ils sortaient du bac ou de quelques études. Donc voilà, j'ai commencé très tard. J'étais déjà presque mariée. Et très vite, j'ai eu ma première grossesse, en fait. J'ai passé mon diplôme en 2008 et je suis tombée enceinte en 2010. Donc très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même adapter et j'ai toujours eu envie de rester en forme malgré ma grossesse. Donc j'ai eu mon premier enfant, ensuite il a fallu adapter, ensuite j'ai eu mon deuxième enfant 4 ans plus tard. Donc en fait, je pense que c'est aussi pour ça, c'est que je pense que si j'avais commencé plus jeune à faire des vidéos sur YouTube à 18 ans, 19 ans de fitness et de remise en forme, j'aurais pas tout de suite été dans le discours que j'ai aujourd'hui, j'en suis sûre.
Ouais, parce qu'au
début,
pas eu le recul, quoi.
J'ai passé mon diplôme de coach sportif en me disant je vais être la reine de la forme. J'étais encore vachement dans la surperformance. Et en fait, finalement, je pense que c'est vraiment ma première grossesse qui m'a aidée, qui m'a vraiment sauvée de ce côté ultra performance et pas du tout réaliste de la forme. On est très tenté quand on est professionnel d'aller là-dedans. C'est très tentant de devenir le super sportif, la reine du machin, c'est galvanisant un peu.
Ouais, ça a pas dû être facile aussi pour toi d'ailleurs de choisir une voie différente. Et puis, alors en plus, on le voit, tu t'exprimes tes opinions assez clairement. Mais je pense que c'est
parfois,
ça qui
je me fais bien tracher.
Je peux imaginer, mais d'un autre côté, c'est ça aussi qui fait que les gens qui te suivent t'aiment, quoi, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ta sincérité. Et du coup, ça a été dur aussi pour toi. Enfin, il y a eu un moment. Comment ça s'est passé dans ta tête? Tu t'es posé la question d'y aller à fond, tu vois, et de te dire, ok, en fait, c'est ce en quoi je crois, et donc je vais y aller, et puis je vais être honnête, et moi, je vais te dire qu'il faut pas suroptimiser, ou en fait, ça a été vraiment naturel.
Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, je pense. En fait, moi, j'ai commencé sur YouTube pour faire des vidéos de remise en forme après la grossesse. En fait, au tout début, j'étais coach sportif, vraiment, j'étais au tout début de mon métier de coach sportif, j'étais toujours journaliste, et à l'époque, je travaillais déjà pour Doctissimo, un site internet d'information santé très reconnu, j'écrivais pas mal d'infos sur le bien-être, la forme. Et quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, donc c'était en 2010, 2009-2010, Je voulais trouver des vidéos pour garder la forme enceinte et je trouvais pas. Alors j'avais acheté des DVD, à l'époque il y avait encore des DVD. J'avais acheté des DVD de yoga et tout ça américain, mais c'était pas super bien. Et du coup, j'avais proposé à Doctissimo, tiens, on devrait faire des articles sur ça ou même des vidéos. Mm-hmm. C'était vraiment tout début
ouais,
de YouTube
tout début,
en 2010. Et il m'avait dit ah ouais, c'est une super idée et tout. Bah finalement le temps qu'il se décide, j'avais déjà accouché. Donc j'ai fait les premières vidéos avec Doctissimo de remise en forme après la grossesse.
D'accord.
Et ça a tout de suite très bien marché. Ensuite j'ai créé mon blog en fonction des questions que je recevais sur ces vidéos.
D'accord.
En fait. Donc les gens justement voyaient mes vidéos en disant tiens, vraiment les explications sont très douces, très soft et du coup me posant plein de questions, moi j'ai créé mon blog pour leur répondre. Mm-hmm. Et en fait, c'est vraiment venu comme ça au fur et à mesure au
je
fil
comprends.
Des questions de mes auditeurs ou lecteurs ou pratiquants
ouais, bien
virtuels.
Sûr.
Et donc c'est vraiment venu au fur et à mesure. Je me suis pas dit tiens je vais prendre cette direction là non en fait
non,
je
mais
pense
ça,
que ça me
justement,
correspond
justement bah, c'est sympa parce que je remarque en fait il y a quand même rarement que ce soit dans les entrepreneurs que je rencontre ou les financiers etc en fait des personnes qui ont vraiment une vision dès le départ extrêmement précise de ce qu'ils vont faire en fait tu te fais quand même aussi un peu porter tu sais saisir des opportunités et j'ai l'impression d'après ce que tu me dis que c'est un peu ce qui t'est arrivé aussi
ah oui
quoi.
C'est exactement ça c'est-à-dire que moi vraiment j'ai créé mon blog au début vraiment comme ça juste pour répondre aux questions qu'on me posait sur YouTube parce qu'on m'en posait plein et j'avais pas encore l'idée de créer ma chaîne YouTube
ouais,
donc j'ai créé mon blog à l'époque parce qu'en plus l'écriture pour moi c'était facile vu que j'étais formée
journaliste.
Donc voilà donc j'ai créé ça et en effet voilà je me suis toujours un peu adaptée à la demande des personnes qui me suivent et d'ailleurs quand on me disait ah mais alors est-ce qu'il faut prendre des protéines etc bah je donnais mon avis mais c'était pas en volontairement pour
oui,
rentrer dedans à l'époque ça a été pas maintenant du coup je suis devenue un peu le fer de lance du truc donc.
Bon ça marche je voulais justement reparler un petit peu de tes débuts et en fait avant même que tu décides de devenir journaliste scientifique et que tu deviennes coach comment est-ce que t'es tombée dans le sport petite en fait tu faisais du sport comment ça s'est passé
ouais moi je suis tombée dans la marmite petite mes parents m'ont mis à la natation à l'âge de 6 ans
ah ouais.
Ouais, en fait, c'était vraiment mes parents qui voulaient absolument qu'on nage bien. Moi, je trouve que c'était une bonne idée à l'époque. J'avais pas trop d'idées. Mmh. Et du coup, on allait s'entraîner une fois ou deux par semaine, très jeune. Et moi, j'aimais bien ça. Je me posais pas de questions.
Et c'était déjà de la compétition un peu de...
Ouais, j'ai fait ma première compétition à 6-7 ans.
Ah ouais?
Ouais, voilà. J'étais championne du Val-de-Marne à 7 ans. En brasse.
Félicitations.
50 mètres brasse. Et c'était rigolo, j'aimais bien comme j'avais un peu de réussite en perf compétition, du coup j'aimais bien, ça me faisait du bien. Donc voilà, j'ai continué à nager jusque vers 14-15 ans. J'ai vraiment beaucoup nagé, j'ai nagé 4-5 fois par semaine.
Ah ouais.
Donc ça c'était vraiment mon sport. Et en fait, vraiment ado quoi, j'ai eu le ras-le-bol complet, j'en pouvais plus, je voulais plus voir une piscine, je voulais plus parler à mes entraîneurs, je voulais plus aller aux compétitions, ça me saoulait. Et j'ai découvert le fitness dans la même association sportive de ma ville. Voilà, comme ça, un peu par hasard. C'était une prof de danse qui donnait aussi des cours de fitness. Et à l'époque, dans les années 90, le fitness, c'était vraiment, tu sais, le step, le LIA,
ouais,
moitié danse, moitié aérobique, un peu gymnastique. Et bon, je kiffais,
les
quoi.
Les collants fluo et compagnie.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai commencé à faire de la compétition.
D'accord,
ouais, j'ai une âme de compétitrice.
Je vois ça.
Et en fait, il y avait des championnats de France de fitness, de step. Donc, fallait faire des chorégraphies, fallait suivre des cours. Et pareil, bon, comme on était très peu nombreux à faire des compètes, du coup, j'ai vite eu un bon petit niveau. Donc, j'étais contente. Et vraiment, je voulais absolument faire ça comme métier. C'était mon rêve. Ma prof de danse, de fitness, je l'adorais. Je voulais absolument devenir comme elle. C'était mon rêve absolu.
Donc toi, quand t'étais petite, tu voulais être prof de fitness.
Ah
ou...
ouais, mais j'ai toujours fait ça. Même quand je m'amusais avec mes copines chez moi dans la maison, on s'inventait des vidéos de danse, on faisait des émissions de télé fausses avec des faux micros. Enfin, on était. J'ai toujours voulu faire ça. Enfin, inconsciemment.
C'est trop marrant.
Ouais, c'est trop marrant. Et voilà, donc j'ai toujours voulu devenir prof de sport. Vraiment, c'était quelque chose que je voulais absolument. Et mes parents, ça leur plaisait pas du tout comme idée, c'était pas du tout ouais. Dans les années 90, quand ta fille elle veut devenir prof de danse ou de fitness, tu kiffes pas.
Ouais. Non mais c'est
surtout
clair.
Quand tu l'as mis dans une école privée pour qu'elle fasse des bonnes études. Donc ils m'ont plutôt orienté vers des études et pas vers STAPS.
Ouais.
Pourtant, enfin, c'était une filière pas mal, mais bon, à l'époque, c'était pensé comme boucher, prof de sport dans les écoles, c'était pas top. Vu comme ça par mes parents et les enseignants à l'époque. Du coup, j'ai fait de la biologie. Après mon bac, c'était la matière que je préférais le plus à l'école. J'adorais la biologie, donc j'ai fait ça, fac de bio, et j'ai adoré, c'était super bien. Donc j'ai eu le DEUG et ensuite arrivé en licence, ça devenait beaucoup trop compliqué pour ouais. mon petit cerveau. C'était que de la chimie sous la hotte toute la journée en blouse blanche, ça me saoulait vraiment, j'aimais pas du tout. Donc j'ai arrêté et je me suis orientée vers du journalisme scientifique. Et pour une fois dans le monde, le conseiller d'orientation de la fac a fait un boulot génial, bah, il m'a vachement bien.
Parce que comment tu t'orientes vers le journalisme scientifique,
c'est quand même assez niche. De cette formation.
C'est ça.
Non, je suis
d'accord. J'ai découvert la formation en découvrant ton parcours.
Ah ouais. Ça m'étonne pas. Mais ouais, franchement, il y avait une fille à l'orientation, là, à la fac ouais. de Créteil. Alors, cette dame, je l'ai jamais revue, mais je la remercie trop parce qu'elle m'a orientée vers exactement ce qu'il me fallait. Et j'ai fait ça, c'était à Jussieu, une formation d'accord. à Jussieu. C'était une maîtrise, licence maîtrise, communication, ouais. information scientifique et technique. Ça m'a vachement plu, ça m'a vraiment ouvert sur un nouveau monde que je connaissais pas du tout. Des nouvelles personnes, une nouvelle façon de voir la vie, le travail. Et donc, j'ai commencé comme journaliste médicale. D'abord pour LCI, une émission pour la chaîne télé. À l'époque, c'était Famous. Et ensuite, vraiment dans une boîte de prod pour l'information d'accord. médicale.
Et donc, tu me disais, tu as fait ça pendant 3-4 ans, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et en fait, j'avais 24 ans. Tout allait très bien dans ma vie, j'avais un bon boulot, j'avais un appart cool, j'avais rencontré l'homme de ma vie, des amis sympas, enfin tout allait très bien, mais vraiment je me disais mais il me manquait ce truc de me dire mais enfin si je le fais pas, je le regretterai toute ma vie, je serai jamais clair. Prof de sport quoi. Ouais. Et moi j'ai toujours été la bonne fille sympa, je me suis jamais rebellée, j'ai pas fait de crise d'adolescence. J'ai suivi mes parents qui m'avaient dit fait des études. Et j'ai vraiment été le bon petit soldat. Et en fait, grâce à mon mec de l'époque qui est maintenant mon mari, il m'a vraiment soutenue en me disant mais vas-y, plante tout, passe ton truc, vis ta vie, quoi, kiffe.
Pas, quoi.
Tu vas être super à faire ça, c'est génial, t'as trop raison. Bon, j'avoue que comme on habitait ensemble, j'avais un peu plus de moyens.
Ouais, bien sûr.
Donc j'ai tout planté, j'ai fait un fonds GESIF. Donc, encore une fois, c'est aussi une aide du gouvernement qui est hyper intéressante pour la formation professionnelle. Et voilà, j'ai passé le diplôme de coach sportif. Donc, c'est long parce que c'est dur à préparer.
Justement, alors, ça m'intéresse énormément. Déjà, juste quand même pour revenir sur cette histoire avec tes parents sans du tout leur jeter la pierre. Mais j'imagine que le jour où tu débarques et tu leur dis « Papa, maman, en fait, je vais quitter mon job bien payé, prestigieux, voilà, pour devenir coach ». Je sais même pas ce que c'est, a priori. Comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, ça s'est pas super bien passé sur le moment. Je pense qu'ils ont dû passer quelques nuits sans sommeil en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fout? Tout ce qu'on a fait dans notre vie, on a investi, on lui a payé des super études, on a tout fait pour elle et maintenant, elle veut devenir prof de sport en collant dans une salle de gym. Et je les comprends, hein. Je sais très bien, ça a pas dû être facile du tout pour eux. Ça n'a pas été facile non plus pour certaines de mes amies à l'époque, d'accord. qui n'ont pas forcément compris non plus. Et du coup, j'ai perdu une ou deux amies aussi sur le tas.
D'accord.
Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Donc, mon mec à l'époque, mon futur mari, mon mari,
il t'a vachement soutenu.
A été hyper bien et c'est vraiment grâce à lui. De toute façon, il le sait, je lui dois tout, mais il le sait. Et certaines de mes amies, au contraire, m'ont vachement soutenue en disant « Mais si, c'est génial, vas-y à fond, tu vas cartonner, c'est ta vie, c'est ta passion, je te comprends trop ». Donc voilà, il y a eu plusieurs écoles. Mais non, clairement, mes parents, ça leur a pas du tout plu. Et pendant très longtemps, enfin 3-4 ans, quand j'étais coach sportif, pas du tout connue ni rien sur les réseaux sociaux, ils continuaient à dire à leurs voisins et à leurs amis que j'étais journaliste à LCI, journaliste médicale. parce qu'il pensait que ça allait me passer comme lubie, ouais. Et que voilà, j'allais rentrer dans les clous.
Je vois très bien ce que tu veux dire.
Et mais aujourd'hui, ils sont très contents, donc ça.
Ouais, je peux imaginer. Et alors justement, moi, je voulais aussi parler un peu de qu'est-ce que c'est que devenir coach sportif et les études, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pas facile. Concrètement, ça ressemble à quoi? Enfin, après, peut-être que je me trompe, hein, mais ça ressemble à quoi une semaine? Ou enfin, c'est quoi en fait la vie d'un jeune qui devient coach sportif?
Alors, coach sportif, c'est un métier qui est normalement régulé par le gouvernement, par le diplôme, mais malheureusement aujourd'hui, il y a vraiment un énorme flou artistique autour du diplôme. Alors, moi, j'ai passé le diplôme reconnu du BPJEPS. AGFF, donc c'est insupportable comme détermination. Mais en gros, voilà, c'est le diplôme que tu passes sur un an et demi dans des écoles privées.
Ouais.
Il y a aussi des CREPS, donc publics. Mais voilà, moi j'ai présenté une école privée parce que c'était à Paris et j'avais besoin d'être à Paris. Donc déjà, les tests d'entrée sont très difficiles, musculairement
surtout.
Pour
rentrer déjà.
Ouais, en fait, faut déjà être en super forme pour rentrer. Et moi, j'étais juste pratiquante de fitness. J'y connaissais rien trop à la muscu. Et donc, en gros, tu dois savoir... Alors, moi, à l'époque, il fallait savoir passer 3 tractions pour une femme.
Et donc, c'est ça. C'est quand même différent pour une femme, pour un homme, mais quand même pour une femme,
ouais,
3 tractions.
Pour un homme, c'est 10, je crois. D'accord. Pour une femme, c'est 3 tractions. Il faut savoir faire 3 squats au poids de corps. Donc, par exemple, moi, je pèse quand même 66 kilos. Donc, 3 squats à 66 kilos. Ouais. Alors, maintenant, je sais les faire. Mais quand on n'a jamais fait de ta vie, il faut franchement se préparer. Et pareil, il faut savoir faire aussi un développé couché. Donc, tu sais, sur le banc, pousser la barre comme l'inverse d'une pompe. Et là, je crois que c'était 50% du poids de corps, un truc comme ça. Donc, c'est quand même assez lourd. En tout cas, si tu n'en as jamais fait de muscu, tu passes pas.
Donc c'est très muscu quand même, je trouve. Alors, plus que...
Il y a aussi un peu de théorie, mais pour moi, c'était plus facile, la théorie. Ouais. Donc, je me rappelle pas avoir galéré pour la théorie.
Mais il
n'y
a pas d'endurance ou quoi que ce soit, pour le coup.
Si. Il y a aussi un test de Luc Léger. Donc, il y a aussi du cardio.
D'accord.
Mais enfin, pour moi, ça n'avait pas été trop dur, ça, le Luc Léger.
C'est quoi le test de Luc Léger?
En fait, c'est un test où tu dois courir. Donc, je me rappelle plus du Luc Léger, ce que c'est exactement.
Non, mais
en gros, t'es dans une salle, genre un stade de basket, et on te fait courir des allers-retours, et toutes les 10 secondes, de plus en plus vite.
D'accord.
Il faut monter de plus en plus vite. Mmh. Tu dois faire l'aller-retour de plus en plus vite au fur et à mesure. Et en fait, après, tu as des paliers, et il faut que tu atteignes un certain palier de cardio. Donc, clairement, ça te met dans le rouge.
Bien sûr.
T'es mal, t'as envie de vomir.
Mais
moi, je me rappelle ça allait. C'était surtout la muscu pour moi qui était hyper, hyper dure. Et il faut quand même aussi savoir faire, encore maintenant, il faut encore savoir faire du step et du LIA vachement bien. Alors qu'en plus, maintenant, on n'a plus du tout de step et LIA dans les salles de sport. Mais bon, c'est encore un critère de sélection. Mais franchement, il faut quand même se préparer physiquement et aussi un peu en théorie. Donc, tu rentres pas comme ça en claquant des doigts. Et ensuite, c'est une formation d'un an qui est hyper dure, mais vraiment physiquement hyper dure parce que tu es 50% dans ta salle de sport où tu es en stage, 50% en cours. Et les cours, c'est très physique. Et quand tu es en stage dans ta salle de sport, ils te font donner plein de cours parce que clairement, ils sont en manque de staff. Mmh. Et donc, très vite, tu donnes plein de cours. Donc, en fait, tu fais du sport 15h, 20h par semaine, plus la théorie. En plus, comme tu es en stage dans ton salle de sport, ils te font bosser le dimanche matin, le samedi soir. Enfin, ils te donnent tous les horaires les plus pourris. Si tu dis non, t'es viré. Donc, c'est une année hyper, hyper dure. En plus, moi, je continuais à faire de la pige en journaliste parce que j'avais besoin d'un peu d'argent. Donc, c'est vraiment... Ça a été une année très dure, physiquement. Mais bon, après, ça t'apprend aussi la vraie vie d'un vrai sportif, ce que c'est. Parce que t'as un examen à la fin de ton diplôme de muscu aussi, de théorie, de cours, mais aussi de muscu, où tu dois vraiment encore plus être... Enfin, là, moi, j'avais choisi l'endurance, donc il fallait faire 50 répétitions de squat à 35 ou 36 kilos, je crois. Voilà. Enfin, et en fait, ça demande une grosse préparation. Donc, en plus de ça, du tout le sport que tu fais pour donner des cours, ta formation, tu dois en plus t'entraîner.
Bien sûr.
Et te créer ton propre cycle d'entraînement pour réussir tes objectifs à la fin. Donc, c'est hyper formateur. Tu sors de là... T'es vraiment calé. Mais t'es calé en mode sport ultra performance.
D'accord. Donc, dès les études, en fait, tu rentres un peu dans ce moule, tu dirais.
Non, mais c'est fou. Après, la formation, moi, je l'ai bien aimée, mais elle a quand même plein d'écueils. Et le plus gros écueil pour moi, c'est que elle te prépare à donner des conseils et des informations à même pas 2% de la population, une population hyper sportive.
Ouais, je comprends.
Alors que les 98 autres de la population qui font pas de sport, qui est déconditionnée, qui a juste envie d'être bien.
Ouais. Perdre 3
t'as
kilos.
T'as presque rien à leur donner, ou alors tout de suite tu les emmènes dans un truc de prépa physique qui leur correspond pas, quoi.
Je comprends.
Moi, je pense que ça, c'est vraiment un gros défaut aujourd'hui de la formation que moi j'ai connue. Bon, c'était il y a 10 ans, mais je pense que ça a pas trop changé de coach sportif. Et après, donc t'as le diplôme de coach sportif, t'as la carte professionnelle qui t'autorise à donner des cours, à être assuré.
Et donc là, tu peux donner des cours dans les clubs de sport.
Exactement. Ensuite, il faut continuer à se former. T'es pas obligé, mais c'est quand même bien de continuer à se former à plein d'autres méthodes. Et après, malheureusement, aujourd'hui, on est quand même très concurrencé par des coachs qui n'en sont pas ou qui n'ont pas de formation, qui ont été diplômés à l'étranger ou par voie de correspondance. Je dis pas que c'est mal, hein, parce que je connais des coachs qui ont été formés plus ou moins à droite à gauche par correspondance, un peu en Belgique, qui font du super boulot. Il y en a qui font du pas super boulot alors qu'ils ont le diplôme de base.
Ouais. Donc c'est pas facile de faire
c'est
la part
facile
des choses.
C'est pas facile de trouver le vrai du faux. Il y a aussi plein de coachs qui, parce qu'ils courent vite des marathons, hop, deviennent coach running. Alors que c'est pas du tout parce que tu cours vite
que
t'es un bon pédagogue.
Ouais, bien sûr.
Et puis après, il y a le yoga, je te raconte pas.
Ouais.
Et puis, tu vois, par exemple, quand j'ai fait ma formation de pilates à l'époque, donc moi, j'étais coach sportif et je voulais en plus me former en pilates, j'avais dans ma formation de pilates 2 esthéticiennes.
D'accord.
Qui allaient donner des cours de pilates à la fin de la formation.
D'accord.
Okay. Voilà, donc en fait, c'est vraiment quand même très vaste. C'est censé être un petit peu régulé par la DGCCRF qui est censée checker les salles. Mais malheureusement, en fait, ils checkent que les grandes salles qu'on pignon sur rue. Et eux, bah, ils prennent pas de risque, donc ils prennent bien des coachs diplômés. Mais il y a plein de salles que je connais très bien. et aussi des coachs individuels qui ont pas de diplôme, rien, et qui diffusent leurs cours. Donc,
c'est pas facile. On va faire attention à ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as ton diplôme, en fait? Tu as commencé à bosser tout de suite avec Doctissimo ou tu as donné des cours aussi? Comment ça s'est passé?
Alors, moi, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé... En fait, j'ai toujours eu cette volonté de mélanger journaliste et coach sportif. Je voulais pas devenir que coach sportif tout le temps. Je sentais déjà à 24 ans, 25 ans, que c'était too much pour mon corps. Donc, j'ai toujours voulu mélanger. Donc, je continuais à piger pour des magazines féminins, professionnels, Doctissimo... Et je bossais dans certaines salles de sport, notamment à l'usine, pour qui j'ai beaucoup travaillé.
À Paris.
À Paris, voilà, vers Opéra. Donc voilà, donc j'ai tout de suite fait comme ça un peu le moitié-moitié. Ça me plaisait vachement bien. J'avais un peu une vie gypsy, bohème. C'était cool. Je gagnais pas beaucoup d'argent, mais c'était chouette.
T'étais heureuse.
Je vivais de ma passion. Mon mari était hyper content pour moi. Donc voilà. Et en fait, des vidéos pour Doctissimo, j'ai commencé assez tard finalement, enfin au moins 2 ans après avoir eu mon diplôme. Mm-hmm. Donc j'ai travaillé comme ça, comme coach dans des salles. C'est dur hein, d'être coach dans des salles. C'est bien au début, mais très vite tu peux te lasser. Tu donnes plein de cours, on t'exploite à mort. On veut pas que tu te ménages. C'est quand même des métiers super durs. D'ailleurs, moi, quand j'étais en formation, on me disait la durée de vie d'un coach sportif, c'est 5 ans.
Ah oui. Et en général, du coup, il y a une reconversion.
Et on m'avait dit, même pour les femmes qui ont des enfants, c'est moins. Ouais, tu vois, sympa. Mais parce qu'en fait, tu te ménages pas et tu peux vite vraiment rentrer dans le tunnel de donner plein de cours, notamment des cours Les Mills, body pump, body attack, body combat, body step, body vibe. Tu te les enchaînes, tu te les enquilles. Tu peux vite te blesser, en avoir vraiment ras-le-bol. Donc, ça peut être un métier assez ingrat si tu te ménages pas. Ça peut aussi être un métier où tu gagnes très bien ta vie quand tu donnes un petit peu de cours en salle et pas mal de coaching au black.
Ouais.
Donc, chacun le vit comme il a envie. Moi, je connais pas beaucoup de coachs sportifs longue durée. J'en connais certains. La plupart ont soit fait beaucoup de coaching et ensuite ont un peu créé leur système de coaching dans des entreprises, etc. Mais c'est quand même des métiers qui sont durs, il faut le dire. Tout le monde pense que c'est génial, tu fais 3 vidéos, tu montes tes muscles sur Instagram, ta vie est cool. Non. Clairement, c'est pas ça.
Déjà, ça, j'imagine que c'est hyper dur en réalité. Enfin, on sent bien quand même que t'en as presque souffert par moment. Mais aussi, honnêtement, émerger, surtout maintenant. Alors peut-être que tu vas me dire qu'à l'époque c'était plus simple, mais je suis pas sûre. Enfin, franchement, donc toi, t'as donc ton blog Lucille Woodward, et puis t'as été aussi sur Doctissimo. Alors certes, Doctissimo t'a peut-être aidé à te faire émerger, mais enfin néanmoins, t'es l'une des plateformes, on va dire, les plus reconnues en France et les plus importantes de remise en forme, programme de remise en forme, nutrition, conseils, astuces, etc. Et ma question, c'est comment tu as fait aussi pour émerger, alors que maintenant, on a l'impression qu'il y a vraiment une surenchère sur le secteur, qu'il y a énormément de contenu, notamment des contenus américains. Sur Instagram, c'est hallucinant quand même à quel point on est sollicité en permanence. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que toi, tes contenus, en fait, sont sortis du lot?
Tu sais, il y a une fille que j'avais rencontrée qui était athlète Nike dans les années... 2000, c'était Léa Kim, elle était prof de yoga athlète Nike, et c'était mon rêve d'être comme ça, je la trouvais incroyable, elle était super, elle était hyper connue, et un jour je l'ai interviewée justement pour le blog bien-être que j'avais, et je lui ai demandé, mais comment t'as fait pour être connue, pour émerger? Et elle m'a dit un truc que j'oublierai jamais, elle m'a dit, si tu veux émerger en faisant les choses bien, il faut être la première.
Donc la première
et
dans
elle,
le temps.
En fait, ça avait été une des premières profs de yoga à Hong Kong. Et du coup, voilà, elle est sortie du lot. Elle a commencé à bosser pour Nike Hong Kong et puis ensuite Nike Monde. Maintenant, on n'a plus trop parlé d'elle. Moi, je la suis toujours. Et en fait, ça a vachement résonné en moi. Et je pense vraiment que si tu veux émerger, c'est quand même bien d'être le premier. Au début, au tout début de quelque chose.
Faut sentir l'opportunité tôt, quoi.
Et moi, clairement, c'est sûr que c'est vraiment les vidéos sur YouTube de Doctissimo qui m'ont permis d'émerger. Je pense que si j'essayais aujourd'hui, j'aurais zéro chance.
Ouais, enfin, c'est aussi que je pense que tu t'es énormément fait la main, parce que je sais pas combien de vidéos t'as tourné, mais ça a dû être hallucinant.
Oui, voilà, mais c'est parce que c'était au début, il y avait de la place, il y avait encore personne. J'étais la seule à proposer du contenu forme de qualité en français. Donc, j'ai pris la place. J'ai kiffé parce que j'étais seule en mon royaume pendant 2-3 ans, c'était cool. Du coup, j'ai des éditeurs qui m'ont demandé d'écrire des bouquins. Je l'ai fait, j'ai fait de la presse, j'ai été à la télé, j'ai fait l'émission des maternelles pendant 2 ans. Donc oui, c'est sûr, j'ai énormément profité du fait que j'ai été une des premières. Aujourd'hui, je vois que c'est très dur d'émerger. Il faut attendre le next big thing, je sais pas ce que ce sera. Mais parce que je connais moi quelques coachs françaises qui bossent bien, qui disent des choses bien et qui ont vachement de mal à émerger parce que elles refusent de soit bosser dans les réseaux de protéines, soit de se montrer nue.
C'est
après maintenant aujourd'hui. Non mais clairement, si t'es une fille et que tu veux émerger dans la forme, soit tu te mets dans les réseaux de vente de protéines ou de compléments alimentaires qui te poussent et qui te font monter. Il y a que comme ça que ça marche. Soit tu te dénudes et tu tournes vers le porno fitness.
Ouais, ça fait pas forcément rêver, quoi.
Chacun son choix. Après, c'est dur, hein. Et franchement, on est tout le temps tenté. Moi, d'ailleurs, c'est pas très, il y a pas très longtemps sur Insta, j'ai vraiment fait le test. Un jour, j'ai posté une photo de moi en maillot de bain, moche, enfin vraiment pas dans un super décor, juste dans les vestiaires de la piscine, tu vois. Donc en maillot de bain, bikini, abdos tracés, cuisses, tu vois, à un horaire de merde, c'est-à-dire un mercredi à 14h15, donc c'est vraiment les horaires où sur Insta c'est plat. J'ai eu une montée de likes que j'ai jamais, c'est un des posts qui a le mieux marché, commentaires, likes, de fou quoi. Et le lendemain, à une bonne heure d'écoute, un jeudi à 21h, je poste un texte inspirant de moi habillée, tu vois. Et là, j'ai un nombre de likes normal, de base. Et genre, une semaine plus tard, je l'ai mis sur Insta, j'ai mis la comparaison, je dis, regardez, je poste un truc en maillot de bain à 14h et une photo habillée, et voilà le nombre de likes, et ça a fait vachement réagir.
Mais c'est pas facile quand même de pas céder, du coup, parce que forcément, t'as envie d'avoir plus de visibilité, plus de likes.
Si tu fais la course aux likes, t'es en maillot de bain avec tes enfants ou avec ta grand-mère. Ma grand-mère, ça marche très bien. Quand je pose des photos de ma grand-mère, ça fait vachement de likes.
Ça marche. Est-ce que dans ce parcours qui est super inspirant et où franchement, on a quand même l'impression que ça n'a pas été facile, parce que franchement, j'ai l'impression que t'as quand même vraiment dû te donner de toi-même quand t'as fait tes études de coach et puis même après, enfin, on le sent bien. Mais est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement difficiles ou des échecs qui t'ont appris des choses que tu t'aurais en tête?
Ouais, plein. Pour moi, une des années les plus difficiles, ça a été l'année 2016. Mmh. En fait, 2015-2016, j'ai eu un moment où en fait, je sais pas, j'ai cru que j'étais la reine du monde. Et donc, je bossais pour l'émission Les Maternelles.
Ouais.
Qui, c'était génial, j'ai adoré, c'était vraiment une expérience formidable. Et puis, j'ai été contactée par deux entrepreneurs qui voulaient monter un studio de cycling.
D'accord.
Qui m'ont demandé d'être vraiment de créer le concept en France, le Soul Cycle français.
Génial.
J'ai dit oui, j'ai trouvé ça génial. Et puis, je voulais continuer à faire mon blog et tout à fond. Et en fait, c'était trop, quoi. Et j'en ai beaucoup trop fait. Et donc, en plus, je déménageais. Ma fille avait 1 an, mon fils 4 ans et demi, 5 ans. Et donc, je me suis retrouvée à gérer l'émission des maternelles une fois par semaine. Responsable des coachs et créatrice du concept Dynamo. Et aussi, toujours continuer à faire des vidéos sur YouTube pour Doctissimo, mais aussi pour moi. Et aussi continuer à faire des milliards de trucs, des événements. Et j'ai eu TAM, sport. Et en fait, tout a pété. C'était au moment des attentats, là, le 13 novembre, je sais plus. Oh, 2016, je crois, c'est ça.
Ouais.
2015. Et en fait, là, c'était horrible. J'avais perdu 7 kilos. Je dormais plus. Je m'occupais plus bien de mes enfants. J'étais tout le temps irritée, irritable, mal dans ma peau. J'étais pas bien. J'étais crevée en permanence. Et mon mec, il me disait, mais ça va pas, t'es pas bien, arrête, arrête le vélo et tout, t'es folle, t'en fais trop. Je faisais 13 heures de cardio par semaine. Et un de mes coachs aussi, Fred, un jour, il m'a vu descendre pour m'entraîner. Il m'a regardé, il me dit, attends, on va pas s'entraîner aujourd'hui, on va aller prendre un petit déj. Et il allait me payer un croissant.
Tellement t'étais,
Et qu'il a jamais fait de ma vie, enfin, tellement j'étais, il m'a eu pitié de moi. J'étais l'ombre de moi-même et en fait j'en pouvais plus et puis en plus avec les responsables de Dynamo ça se passait pas bien, j'étais pas content de moi, moi j'étais pas super contente, ils commençaient à embaucher des coachs qui étaient pas diplômés, enfin ça m'allait pas. Du coup j'ai plaqué ça, j'ai pris un gros risque, j'ai décidé d'arrêter vraiment d'un coup, du jour au lendemain. Et donc ça c'était en novembre. Au mois de janvier, le producteur de l'émission des maternelles vient me voir et me dit qu'il arrête, que je suis plus chroniqueuse sur l'émission, parce qu'ils ont plus de budget. C'était à l'époque où TF1 avait racheté les boîtes de prod qui créaient les maternelles. Ils étaient en low budget, et du coup, ils ont cuté beaucoup de chroniqueurs.
Donc, tout arrive d'un coup.
Donc,
quoi.
Dégoûté. Et en février, je pars au ski et je me pète le ligament croisé.
Donc
ça a été vraiment les 3 mois.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je veux dire, comment tu t'es sortie de là?
Et en plus, donc je me pète le ligament croisé et j'étais sur un nouveau gros projet d'émission YouTube où j'allais coacher 5 personnes pendant 1 an.
D'accord.
365 Body by Lucille. J'avais monté ça avec des partenaires financiers pour créer mes premiers programmes de remise en forme. Et donc, je me pète le ligament croisé 3 semaines avant le premier tournage.
Quelle horreur.
Et donc là, vraiment, je pense que j'ai touché le fond. Et là, tu te dis, bon, soit ma carrière est finie, parce que clairement, à 35 ans, tu te pètes le genou, tu y penses franchement. Soit j'y vais vraiment plus soft. Je fais vraiment... je retourne vraiment à l'instinct, au soft. J'arrête d'être la reine. Je fais mon truc dans mon monde, dans mon coin, et on verra, quoi. Qui vivra, verra. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis recentrée à fond sur mon émission YouTube, mon émission de coaching, pour créer mes premiers programmes. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai créé mon entreprise, où j'ai plus été la petite gypsy indépendante de entrepreneur, où j'ai vraiment monté quelque chose. Je me suis entourée, j'ai payé des prestataires, et j'ai vraiment monté ma structure pour vendre mes programmes. Mais
Donc, tu as été obligée quand même de, comme tu dis, toucher le fond un peu et devoir te remettre en cause aussi ouais. pour franchir ce cap, quoi.
C'est ça. En fait, je pense que j'ai vraiment touché le fond de « c'est plus pour toi cette vie-là, mmh. de la reine de machin, la reine du cardio, la reine de la télé. » Tu vois, enfin...
T'es pas indescriptible et ouais, tu voilà. peux, t'as besoin des autres aussi.
Exactement.
Quoi.
Et c'est-à-dire que tu vas plus soft, t'as besoin des autres, tu fais plus tout toute seule. Tu te ressentes sur la construction d'un futur aussi, pas juste cartonner toi-même, briller l'étoile filante, ça c'est... Mais ouais, voilà, j'ai eu vraiment 6 mois vraiment horribles où tu touches le fond, quoi.
Bah écoute, c'est hyper inspirant. Je voulais ensuite parler un petit peu plus de questions, on va dire techniques, sport et nutrition. Ça m'intéresse vachement et si ça te va, j'aimerais bien commencer par te demander, donc on switch complètement, sans transition. Est-ce que tu pourrais me décrire un peu les grands principes, on en a parlé de façon un petit peu sous-jacente, mais les grands principes alimentaires et sportifs du coup que tu t'appliques à toi-même et que tu recommandes un peu à quelqu'un lambda, on va dire, qui est sportif mais pas trop?
Ouais, alors en fait je m'applique à moi-même exactement ce qu'un pédiatre te dirait pour un enfant de 18 mois. Donc c'est-à-dire que il faut manger de tout,
ouais.
surtout des légumes et des fruits.
D'accord.
Surtout pas de protéines le soir, donc pas D'accord. de viande, pas de poisson le soir. Donc ça, vraiment, je me l'applique à moi-même. Je mange comme un enfant de 18 mois. Bah, alors, un peu plus de quantité, forcément, parce que mon estomac, il est plus gros. Mmh. Mais en termes de qualité nutritionnelle, c'est exactement ça que je mange. Donc c'est énormément de féculents, tout simple, le moins transformé possible. Comme tu vois, un enfant, tu lui fais des D'accord. légumes, tu mets pas trop de sel, pas trop d'huile, juste un petit peu pour le goût. Tu lui fais découvrir un peu tous les goûts. C'est vraiment, je mange comme ça. Tu lui donnes un bonbon, mais de temps en temps, pas trop. Tu vois, c'est exactement pareil.
Donc tu t'autorises quand même de temps en temps des petits craquages.
Oui, non, mais bien sûr.
Un petit pain au chocolat.
Oui, bien sûr. Un pain au chocolat. Bon, moi, je suis plutôt salée, donc ça va plutôt être chips et vin.
D'accord.
Mais oui, bien sûr. Mais de temps en temps, pas trop. Voilà, tout dans la modération. Mais je trouve que ce principe-là, il fonctionne vraiment très bien. Ensuite, bon, voilà, maintenant, moi, j'ai vraiment décidé de plus du tout manger de viande ni de poisson. Ni de produits laitiers, très peu. Voilà, donc bah, je mange la plus végétale possible, le moins transformé possible. Je me suis beaucoup rencardée sur le Whole Food Plant-Based Diet. Donc c'est la nouvelle façon de manger, enfin en tout cas de décrire l'alimentation saine à l'américaine. Donc c'est l'alimentation non transformée, plutôt végétarienne.
D'accord.
Et ça marche extrêmement bien. En fait, moi, j'ai découvert la puissance de l'alimentation quand j'ai commencé à pouvoir faire moins de sport. Parce que quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, d'un seul coup, je pouvais faire beaucoup moins de sport et il fallait quand même que je garde la forme. Donc, ouais. tu n'avais plus le choix, tu ne pouvais plus faire des lasagnes tous les soirs. Il fallait trouver une autre solution. Voilà, donc le principal, c'est vraiment l'alimentation. Parce que forcément, à des moments donnés, tu es blessé, tu es crevé, tu ne peux plus forcément faire de sport. L'alimentation la plus végétale possible, la moins transformée possible, ça marche, mais ça marche de fou sur tout le monde.
Mais quand tu dis que ça marche, c'est-à-dire
tout le monde dégonfle.
Tu dégonfles et tu t'es bien. Enfin, qu'est-ce qui se passe?
Tu dégonfles, tu te sens mieux, t'as beaucoup moins de problèmes digestifs. Mais ça marche pour tout le monde. Pour moi,
ça,
pour mon mari.
C'est le côté transformé ou c'est les protéines qui font les problèmes digestifs dont tu parles, la fatigue.
C'est le côté. C'est surtout tout ce qui est graisse animale.
D'accord.
Voilà. Donc soit dans les viandes, dans les produits laitiers. Mais aussi tout ce qui est transformé, donc sucré et voilà, gélatiné, aéré,
ouais, enfin, mixé, on a pas envie de savoir comment
voilà,
ça fait,
amidonné, émulsifié, tout ça en fait, ça empêche une très bonne digestion. On est encore une fois des animaux, on partage 99,5% de nos gènes avec les gorilles.
C'est vrai.
Et tu vas au zoo,
ouais.
Il écrit partout sur les barrières. Ne nourrissez pas les animaux de chips, de pop-corn, de barbe à papa. Surtout quand vous arrivez à la cage des gorilles, ne leur donnez pas de truc. Tu vas voir comment les gorilles sont alimentés. Ils leur balancent des carottes, des choux. Parfois, ils mangent un peu des insectes, mais bon. Et après, au zoo, tu continues avec tes enfants, tu vas au restaurant.
Et là,
t'as des fish nuggets et des knacky balls et des frites et du coca. Mais non, mais c'est vrai.
Non, mais clairement.
Le principal, c'est vraiment l'alimentation, la plus végétale possible, la moins transformée possible. Ça marche pour tout le monde. Quand on a 99 ans, quand on a 70 ans, quand on a 45 ans, 25 ans, 18 mois, ça marche pour tout le monde. Et ensuite, pour le sport, souvent les gens ils pensent que je fais beaucoup plus de sport que en réalité. En fait, je fais entre 5 et 6 heures max de sport par semaine.
D'accord.
Ce qui est pas ouf.
Pas mal.
Oui, c'est pas mal, mais c'est pas non plus ouf pour une professionnelle de la forme. Donc, je cours une fois par semaine, voire parfois deux, mais une, c'est sûr. Je nage une fois par semaine. Je fais du yoga une ou deux fois par semaine. Et je fais de la musculation au moins une fois par semaine.
D'accord.
Et ensuite, parfois, je rajoute un peu de rameur, un peu de cycling.
Et c'est important, justement, parce que du coup, c'est hyper diversifié. Souvent, les gens, moi, que je vois autour de moi, me disent, bah, moi, je fais de la course à pied et ils courent trois fois par semaine. Ou ils font de la musculation, notamment les hommes. Ils font énormément de musculation et le cardio, finalement, ils en font pas tant que ça. Pour toi, c'est justement important d'avoir un peu, enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois, t'es dans un état d'esprit de la mesure, essayer de faire les choses bien, mais avec intelligence. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, c'est hyper important de varier. En fait, la monoactivité, c'est hyper néfaste pour l'organisme parce qu'en fait, ton corps, il s'habitue complètement à un seul effort et du coup, dès que tu lui en donnes un autre, bah, il peut plus facilement se casser ou il va plus facilement se blesser, il va être moins adaptable.
D'accord.
En fait, c'est l'adaptation qui permet au corps d'être toujours en forme. On doit tout le temps changer son entraînement, varier les choses pour qu'il soit toujours en adaptation. Déjà, ça lui fait brûler plus de calories et ça lui demande tout le temps d'être un peu plus souple, un peu plus instinctif sur les réflexes, un peu plus fort et un peu plus adaptable. Donc, c'est sûr que si on a envie de cartonner, de performer, de courir un marathon en 2h30,
il faut
faire de la monoactivité. Mais ça, c'est même pas 2% de la population qui est intéressée par ça et qui a le temps de le faire aussi. Donc, en revanche, si tu as juste envie de faire du sport, d'être bien en forme, il faut absolument mélanger le renfo, le cardio et les étirements. Donc, musculation, renforcement musculaire, cardio, donc faire battre son cœur, les poumons transpirer, une activité un peu longue durée, et étirement. C'est les trois, c'est le triptyque, c'est le triangle. Si tu n'as pas ces trois-là,
hyper complémentaire, quoi.
Tu vas être moins en forme, tu vas être moins bien. Et c'est vraiment hyper important d'avoir les trois. Et souvent, on néglige.
Et si tu avais un exercice, alors après, c'est très basique et honnêtement, mais juste pour que les gens comprennent, un exercice dans chacune de ces trois catégories, un exercice de yoga que tu recommanderais pour quelqu'un, par exemple, qui a, tu vois, pas beaucoup de temps à consacrer au sport, qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
Déjà, pour les étirements, si tout le monde faisait une salutation au soleil, ça dure une minute, la salutation au soleil, donc tu en fais 5-6 de suite.
Allez sur le site de Lucille, vous les verrez.
Déjà, ça... C'est génial. Ensuite, rien que le fait de marcher 20 minutes par jour, ça fait quand même un peu de cardio, monter les escaliers, ça marche super bien. Donc, essaie de marcher le plus possible, pas trop prendre les transports, en tout cas la voiture. Et ensuite, en renfo, un seul exercice, c'est difficile. Mais c'est quoi? C'est plutôt des femmes ou des hommes qui t'écoutent?
J'ai les deux, c'est vraiment 50-50. Alors, un exercice pour femme, un exercice pour... Parce que c'était une de mes questions, d'ailleurs. Est-ce que c'est différent, notamment le sport, est-ce qu'il doit être abordé différemment pour hommes et pour femmes?
Alors, attends, trop de questions. un exercice pour femme, je dirais la fente alternée, c'est vraiment bien pour les jambes, mais aussi les abdos.
La fente alternée, tu peux me décrire
fente,
le truc?
Et puis, comme si tu avançais en fente.
Ah oui, d'accord.
Tu vois?
Donc tu descends, pense qu'il y a des vidéos, j'imagine.
Voilà, c'est ça, c'est un pied devant, l'autre derrière, tu descends presque à genoux, et puis ensuite t'avances.
D'accord, je mettrai un lien sur les notes.
Ça, c'est pas mal. Et pour les hommes, la pompe.
Ah ouais, ouais. Ah, j'aurais pas pensé.
La pompe large, ça te fait et le gainage des abdos, et les pectoraux, mais aussi les triceps. Et si tu la fais bien, bien large, ça te fait aussi le dos. C'est pas mal.
D'accord, intéressant.
Parce que il faut aussi qu'ils travaillent les jambes, les hommes, mais... Je sais très bien que l'homme va surtout vouloir du haut du corps.
C'est sûr. Et la femme plutôt le bas. Oui. Et du coup, j'avais mon autre question que j'ai un petit peu oubliée, mais qui était, donc quand même, il faut faire la part des choses entre hommes et femmes. C'est pas pareil quand même, c'est pas le même entraînement.
Alors, c'est pareil en termes de mélange des activités. Les hommes bénéficient autant que les femmes d'une diversité des entraînements, donc de mélanger le renfo et le cardio et les étirements. Les hommes ont énormément besoin d'étirements. C'est terrible, ce manque d'étirement chez les hommes, mais c'est ça qui leur crée tous leurs problèmes de genoux, de dos, de chevilles. C'est dramatique, comme les hommes n'aiment pas s'étirer. C'est tellement dommage.
Oui, parce que souvent, je pense qu'il y a une crainte chez l'homme de pas être, d'être fin. tu sais, du coup, d'être un peu féminin parce que tu t'étires. Bon, déjà que c'est une activité qui peut paraître féminine, tu vois, le yoga, etc. Mmh. Moi, j'ai fait pas mal de yoga. Souvent, il y a très peu d'hommes.
Ouais.
Et puis, je sais que, bon, notamment aux États-Unis, mais même en France, maintenant, il y a un peu cette tendance. T'as envie d'être un peu baraqué, quoi. Et donc, ouais. Ils se disent que l'étirement, c'est pas bon.
Exactement, ce qui est faux, absolument. Mais ça, c'est une très mauvaise connaissance de la physiologie. Mais bon.
Casse le mythe, du coup, Lucie.
Mais oui, mais c'est pas l'étirement qui va t'empêcher de gonfler, hein.
Ouais.
Au contraire, parce qu'en fait, plus tu t'étires, plus tu vas ouvrir l'amplitude articulaire. Donc, en fait, par exemple, si tu t'étires les pectoraux, tes épaules, ils vont s'éloigner de la cage thoracique. Donc, tu auras encore une plus grande amplitude à muscler. Donc, ce sera encore plus joli, tu seras encore plus baraqué.
Super.
Donc, au contraire, par exemple, tu vois, les nageurs, ils sont très souples du dos.
Ouais.
Oui, mais tu vois la taille de leurs muscles, ça fait rêver. Mmh. Ben, eux, ils s'étirent beaucoup le dos. Mmh. Alors, ils s'étirent pas forcément en yoga, mais dans leur nage, ils sont très étirés. Ouais. Et justement, ça leur donne une très grande envergure musculaire à muscler.
Ouais, bien sûr.
Beaucoup plus que, par exemple, quelqu'un qui va faire que de la muscu.
Non, mais c'est justement ça.
Il pompe des pompes, il va se renfermer, il va avoir les épaules rentrées vers l'avant, et donc il aura une toute petite surface de pec à muscler. Mmh. Donc, au contraire, étirez-vous. Mais, bon, moi, je suis pas spécialisée des hommes. Je pense que les hommes m'écoutent pas trop. Ça les intéresse pas trop, ce que je dis.
Mais si.
Non, mais bon, je le sais. En fait, ils m'écoutent après, quand ils sont vieux, parce que ils ont fait toutes leurs conneries. Ils ont fait toutes leurs muscu de fou. Ils ont bouffé de la prot. Ils ont eu des problèmes digestifs. Ils ont eu de l'acné. Ils ont eu pué de la gueule. Ils ont fait tous les trucs, trashos. Et ensuite, ils viennent me voir en disant, bon, ça y est, je suis prêt.
Là, maintenant,
je vais passer au végétarisme. À 45 ans, c'est bien, c'est jamais trop tard.
Ça marche. Je voulais, pour terminer, je vais pas te prendre trop de temps, terminer par des questions un peu plus personnelles. Je voulais te parler, si ça te dérange pas, un peu de vie privée. Et notamment, j'ai l'impression qu'avec une vie aussi remplie que la tienne, donc entre le sport, quand même mine de rien, 5-6 heures par jour, le fait que t'es sur les réseaux sociaux un peu en permanence, le fait que t'as ta boîte maintenant avec 6 employés, le blog, etc., et que tu as des enfants et une famille, ça doit pas être simple à gérer. Je voulais savoir, comment tu fais. Et puis aussi, je voulais parler de la grossesse. Donc désolée, il y a plein de questions. Mais comment t'as fait pour t'en remettre aussi au niveau même sportif, tu vois, après ça.
Ok. Alors donc pour le côté vie perso, vie privée, vie professionnelle, franchement, c'est chaud. J'ai pas la solution. Je pense qu'on est des centaines de milliers de femmes au monde, mais en France beaucoup, à bosser énormément, à jongler. Jongler, c'est vraiment le mot. Entre les gosses, les transports, le travail, son mari, ses copains, l'envie de tout bien faire, les maladies, les pipis au lit.
Ouais.
J'ai pas trouvé la solution. Moi, je jongle en permanence. Je parle à mon mari.
Choix.
Oui, je fais des choix, clairement. Je parle à mon mari par Google Calendar. On s'envoie des invitations.
Sexy.
Je suis pas là, tu peux chercher les enfants. Oui, non. C'est la majorité de notre communication en semaine. Il faut faire des choix. Moi, franchement, j'aimerais bosser tellement plus. Je rêverais de pouvoir bosser jusqu'à 21h tous les soirs, de faire des milliers d'événements, d'aller partout en France, de faire des tournées. On me demande tout le temps, viens là, chez nous, ici, à droite, à gauche. Je peux pas. Dès que je fais un déplacement, c'est chaud, faut que je m'organise, j'emmène mes enfants chez ma mère. Franchement, c'est hyper difficile. En plus, moi, je suis pas aidée parce que j'ai pas de famille sur place.
Ouais.
Donc, j'ai un babysitter deux fois par semaine. J'essaie quand même d'aller chercher mes enfants à 17h30 deux fois par semaine, mais c'est chaud. Le mercredi, je bosse de chez moi. Et franchement, c'est chaud. En plus, maintenant qu'ils sont revenus à la semaine de 4 jours, ça me plaît pas. Donc non, franchement, j'ai pas la solution parce que je suis tout le temps en train de douter.
Ouais, je comprends.
Je suis tout le temps en train de me dire, je bosse pas assez ou je m'occupe pas assez de mes enfants ou de mon mari ou de mes copines.
Mais est-ce que t'aurais quand même un conseil peut-être ou un truc qui toi t'a aidé pour réussir à mieux gérer justement tout ça?
Ouais, un jour j'en parlais à une de mes meilleures amies l'année dernière en vacances et je lui parlais justement de ça, que c'était chaud, que j'avais tout le temps l'impression de rien faire bien. Et elle me dit, mais en fait, quand on en est là, c'est qu'on fait bien. C'est quand t'as l'impression de jamais rien faire assez que t'es dans le bien.
D'accord.
Et je trouve que c'est pas mal comme ligne de conduite, quoi. Et franchement, surtout, je pense que c'est bien d'en parler et de se rendre compte que tout le monde vit la même chose. parce que tout le monde, c'est chaud pour toutes les mamans qui travaillent, c'est chaud. Qu'on soit sur les réseaux sociaux à raconter sa vie ou dans son boulot anonyme, mais quand même à jongler de la même façon, c'est chaud pour tout le monde. Moi, j'ai deux grandes sœurs qui ont trois enfants chacune et elles bossent toutes énormément. Et franchement, elles sont dans la folie, dans l'intensité de vie maximum. C'est nos âges, c'est ça. C'est quand t'as entre 30 et 45 ans, je pense que c'est la vie qui veut ça. Ça rend plus fort, je pense, pour plus tard. J'ai pas la solution, je suis désolée, je sais pas quoi vous dire. C'est chaud. c'est chaud pour moi aussi.
Mais bah alors, du coup, c'est une belle transition. Je voulais te demander un peu comment tu fais pour décompresser. Parce que avec tout ça, j'imagine que t'as besoin d'un peu de temps off de temps en temps. Alors j'ai cru voir que tu faisais un peu de détox digital, que tu méditais. C'est des trucs qui sont importants pour toi?
Oui, je médite au moins 2-3 fois par semaine.
D'accord.
J'aime bien l'application Headspace.
Ouais.
J'aime aussi l'hypnose thérapeutique. Et puis là, j'ai envie de tester la méditation transcendantale.
Ah,
mais apparemment,
aussi.
Ça se fait avec un
coach, hein, je crois. Il
avec
faut
un one to one. Donc voilà, faut que j'essaye de tester ça. Il paraît que c'est super. On verra. Donc oui, je médite.
Et qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte quelque chose aussi, même dans le sport, tu penses, au niveau de, pas des performances, mais du mental peut-être?
Je pense que ça m'apporte vraiment le non-jugement. Quand on est sportif et surtout quand on est un ancien compétiteur, on a tout le temps envie d'être meilleur que les autres, d'être meilleur que le jour d'avant, de courir plus vite que la semaine dernière. Moi, j'ai encore ça parfois qui me taraude, qui me pique, alors que bon, bah voilà, j'ai bientôt 37 ans, je suis plus dans la perf. Mais parfois, ou alors j'aime bien être plus forte que quelqu'un. Quand je cours, j'aime bien dépasser la personne au bois qui est devant moi, sauf si c'est un homme ou qu'il a un chien. Mais en fait, ça m'aide quand même à être de moins en moins en compétition avec moi-même et avec les autres. Donc, ça m'aide quand même énormément. Et oui, la détox digitale, je le fais une fois par an, mais franchement, c'est chaud, encore une fois.
Et du coup, ça consiste en quoi? C'est vraiment pas de téléphone?
Alors,
pas
ça consiste à donner mon téléphone à mon mari.
D'accord.
Parce que si c'est pas lui qui est le gardien du truc, je sais que j'y retourne.
Tu craques.
Donc, c'est lui qui me guérit de mes addictions.
Et ça dure combien de temps?
Alors, l'année dernière, j'ai tenu 6 jours.
C'est pas mal, quand même.
Et cette année, j'aimerais bien faire autant. Pareil, il est au courant. D'ailleurs, c'est ce dimanche, là. Je vais lui donner mon téléphone. Je pars en vacances. Je vais marier mon frère. Et voilà, je vais lui donner mon téléphone. C'est une grosse remise en question. C'est dur. On est addict. Je suis complètement addict aux réseaux sociaux. J'essaie d'y travailler vraiment, mais c'est dur. Et je vois que c'est de pire en pire dans le monde, cette addiction aux réseaux sociaux. Ouais. C'est horrible.
Et par exemple, un truc souvent que les personnes qui sont un peu addictes ou qui essayent de lutter font, c'est que le soir, par exemple, ils essayent de mettre leur téléphone en mode avion, enfin ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose que tu pratiques ou non? T'es pas du tout malheureusement là-dedans. Tu regardes quand tu ultimement ton téléphone?
Si, moi maintenant vraiment, j'essaye à 22h de poser mon téléphone. Je me suis racheté un radio réveil tout pourri pour me réveiller avec un réveil et plus avec mon téléphone qui est sur ma table de nuit.
Ouais.
Donc si vraiment j'essaye à 22h d'arrêter. Mais c'est dur, c'est pas facile, parce qu'en fait, au début, moi, je me suis construite comme ça avec mon fils. J'allais le chercher assez tôt à la crèche et tout ça. Et ensuite, je rebossais vers 21h jusqu'à 23h30 pour créer mon blog et tout.
Ouais.
J'ai commencé à bosser vraiment que comme ça. Et en fait, ça m'a créé des vrais problèmes de sommeil, d'endormissement, de décalage de phase, que j'arrive pas trop à récupérer. Et encore parfois, ça m'arrive de rebosser le soir de 21h à 23h. Je sais qu'il y a plein de mamans qui le font, plein d'entrepreneurs. C'est pas bien, mais parfois on est obligé de le faire et c'est dur.
Non, mais si ça te convient.
Ça me convient pas. Mais malheureusement, c'est encore comme ça que j'arrive à m'en sortir pour voir mes enfants. Franchement, pour ça, le personnel et le professionnel, j'ai pas encore trouvé la solution. Si on pouvait rajouter 2 heures par jour, ce serait cool. Mais j'essaye vraiment d'arrêter les téléphones et les ordinateurs à 22h pour m'endormir à 23. Mais bon, clairement, c'est pas simple.
Ça marche. J'ai 2 dernières petites questions. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu peux me dire quel podcast tu écoutes?
Alors, j'écoute un seul podcast.
D'accord.
C'est le Rich Roll Podcast.
Ouais.
Et j'adore ce
bible,
mec.
Une bible,
ouais, il est super. J'aime beaucoup ce mec. J'aime beaucoup les personnalités qu'il interviewe.
Qui est un podcast du coup vraiment très orienté sport hein, quand même, il faut dire.
De moins en moins sport maintenant, c'est vraiment de plus en plus orienté développement personnel, inspiration. C'est de moins en moins sport, c'est de plus en plus autour du bien-être et de l'alimentation. Alors ça reste quand même axé performance, mais et puis bon, j'aime beaucoup son parti pris ultra vegan. Ça j'aime bien et je le trouve très humble ce mec, alors que bon, il reste quand même dans l'ultra performance.
Lui il est dans l'ultra performance pour le coup.
Donc je l'écoute et surtout ce que j'aime, mais ce que j'adore, c'est que donc il te fait un podcast d'1h20. Et les 12 premières minutes, c'est que de la pub de malade. Et il est trop fort parce qu'il le fait passer crème. Hi everybody, this today, the podcast is sponsored by Undies, the best underwear ever. Il est trop fort.
Ils sont forts les Américains pour ça.
Il est trop fort, il fait passer ça génialement. Et je trouve qu'il est, voilà. Donc rien que ça déjà, c'est inspirant, ces 12 premières minutes.
Une bonne leçon de business.
Voilà, mais oui, j'écoute ça. Et sinon, j'ai... ouais, il y a quelques podcasts français aussi que j'écoute, mais moins régulièrement.
D'accord. Peut-être Crème de la Crème bientôt, écoute. Et sinon, la dernière question, c'était à propos des livres. Alors, je sais que les auditeurs adorent cette question. Est-ce qu'il y a des livres que soit tu as lu plusieurs fois, soit que qui t'ont particulièrement marqué? Ça peut être récemment ou pas. Ça peut être des livres de business, des livres de sport, des histoires, de la littérature, peu importe à la rigueur.
Ouais. Le livre que j'ai préféré le plus lire, c'est un livre d'Elisabeth Badinter, Le conflit, la mère, la femme.
Je l'ai pas lu.
C'est un livre en plus qu'elle a sorti en 2010, donc quand j'ai eu mon premier enfant, et ça a vraiment, pour moi, ça m'a sauvée. Hein. Le côté, on n'est pas obligé d'être que une mère, on peut aussi bosser, vivre sa vie, vivre à fond. C'est vraiment un livre qui m'a énormément aidée pour m'affirmer en tant que femme active, entrepreneur, et en ayant fait des choix un peu bizarres. Parce que après, enfin, tout le monde dit ouais, c'est super, tu fais du sport et tout, mais c'est pas facile hein, de se mettre en brassière sur les réseaux sociaux quand ton fils il est en CE2 et que t'as les parents des copains de ton fils qui te suivent sur Insta et que les collègues de ton mari savent mieux ce que tu fais que ton mari. Ah, ta femme, elle est là, elle fait ci, ça, ça, elle est canon, elle fait des trucs trop bien. Et mon mari, là, mais t'as fait ça, toi? Donc, c'est pas facile et ça m'a quand même vachement aidée justement à me détacher. Donc, ce livre-là, je le conseille à toutes les femmes qui travaillent et qui se sentent un peu en mode culpabilité permanente. Après, il y a aussi beaucoup de livres plus sur l'alimentation, le végétarisme, qui m'ont beaucoup aidée. Comment devient-on végétarien ? Ça, c'est un livre qui m'a bien aidée. The Starch Solution aussi. D'accord. Et finalement, il y a aussi beaucoup de documentaires.
D'accord.
Notamment sur Netflix que j'ai vu et qui m'ont énormément aidé et que je vous incite vraiment à regarder, mais notamment si vous voulez avoir un rapport plus sain avec la nourriture et le sport et justement revenir, comme on disait au début de cette interview, à la naturalité. Le documentaire Cowspiracy,
d'accord,
Cowspiracy, il y a aussi Food Choices,
d'accord,
Fed Up.
Je les mettrai en tout cas toujours en lien sur le site.
Ouais, et ça c'est vraiment des documentaires qui sont absolument à voir pour essayer de comprendre l'imbrication entre l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'environnemental, sur l'alimentation des êtres humains, la responsabilisation qu'on a sur la planète vis-à-vis de notre alimentation. C'est vraiment des documentaires qui sont à voir absolument si vous voulez aller plus loin dans la compréhension aussi de comment taré notre monde est aujourd'hui.
Ça marche, c'est un beau mot de la fin. Je te remercie mille fois. La dernière des dernières questions, c'est comment est-ce qu'on peut te trouver sur le monde du web? Donc évidemment sur ton site Lucille Woodward, que je mettrai en lien sur le podcast, sur les réseaux sociaux aussi. Qu'est-ce que t'as une préférence en général pour que les gens te suivent?
Chacun suit ce qu'il a envie de suivre. Donc, si t'es plus lecture, bah, tu vas sur le blog une fois par semaine. J'essaye d'avoir un papier. Si tu préfères des vidéos, des recettes, tu me suis sur YouTube. Si tu préfères voir des belles photos et des textes inspirants, ben suivez-moi sur Instagram. J'ai aussi ma page Facebook et il y a même un groupe Facebook pour les personnes qui suivent mes programmes.
D'accord.
Ça s'appelle Body by Lucille et là t'as une 15 000 femmes à peu près qui se soutiennent au quotidien pour
c'est top.
Pour trouver des conseils, la motivation quoi.
La motivation ensemble quoi. Bah écoutez, je mettrai tout ça en tout cas sur le blog et puis n'hésitez pas à aller regarder les programmes de Lucille qui ont l'air de très très bien marcher et tout ça est très inspirant. Merci beaucoup Lucille pour ton temps. À bientôt.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.